Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin du Made in France qui tue, des armes vendues à l'Arabie Saoudite en première ligne de la guerre au Yémen et les autorités le savent. Révélation de la cellule investigation de Radio France dans un instant. La révélation du grand débat, ça c'est pour Emmanuel Macron, extrêmement attendu ce soir à 20h. Ses annonces après des mois de crise sociale à la télé et sur France Inter. Et dans 20 minutes Nicolas, l'un des économistes qui a participé à son programme.
Et cette question, quelles mesures peut-il, devrait-il annoncer? On va donc en parler avec Philippe Aguillon. Vous pouvez intervenir évidemment 01 45 24 7000, les réseaux sociaux ou l'application mobile France Inter.
À la une aussi, le grand chambardement chez EDF. L'État veut couper l'entreprise en deux et renationaliser l'activité nucléaire. La résurrection de Tiger Woods au sommet du Golfe. Il a remporté son 15e grand chelem hier. Et la nuit blanche des fans de Game of Thrones, si vous avez préféré dormir, on vous raconte ce qu'on a vu sans déflorer les premiers épisodes de cette ultime saison.
France Inter.
Ce sont de juteux contrats dont on se félicite quand ils sont signés. Des chars Leclerc, des Mirage 2000, des missiles. L'industrie française en a vendu pour 11 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite entre 2008 et 2017. L'Arabie Saoudite, principale protagoniste de la guerre au Yémen. De là à penser que les armes françaises tuent là-bas, il n'y a qu'un pas. Non, 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 ont toujours dit les autorités. Pourtant, une note du renseignement le confirme. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour.
Vous appartenez à la cellule investigation de Radio France et avec Disclose, nouveau média d'investigation, vous avez eu accès à cette note confidentielle.
Oui, il s'agit d'un document confidentiel défense de la direction du renseignement militaire daté du 25 septembre 2018, transmis à l'Élysée, Matignon, au ministère des Armées et aux Affaires étrangères. Un document qui révèle effectivement que des armes françaises sont bien utilisées sur terre, sur mer et dans les airs par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Sur la carte de cette guerre, il y a des chars Leclerc ou des Mirage 2000 qui participent au bombardement. Certains sont équipés de matériel de guidage laser français qui pourrait être utilisé dans le conflit, dit la note. Il y a aussi 48 canons baptisés César, déployés à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Alors officiellement, de manière défensive, mais en réalité, ces canons appuient l'avancée des Saoudiens sur le sol yéménite, précise le renseignement militaire français. Une carte montre également que les canons français pointent sur des zones de bombardement de civils. Il y a aussi toute l'aide indirecte à la guerre, hélicoptères de combat, transport de troupes ou avions ravitailleurs indispensables aux attaques aériennes. Selon le renseignement français, des bateaux de fabrication française participent également au blocus maritime de la coalition. Un blocus qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire sur place.
Et Benoît, l'autre information que vous nous apportez ce matin, c'est que pendant la guerre, les livraisons d'armes continuent.
Oui, par exemple, les livraisons de canons français à l'Arabie Saoudite. Avec Disclose, nous avons remonté la piste de l'une de ces livraisons en septembre dernier. 10 canons César quittent le site de l'entreprise Nexter à Roanne, direction le port du Havre, dans les cales d'un cargo saoudien. 19 jours plus tard, les canons arrivent dans le port de Jeddah en Arabie Saoudite. Il y a enfin ce contrat signé en décembre dernier entre l'Arabie Saoudite et Nexter qui appartient à l'État français. Un contrat qui prévoit la livraison de blindés et de canons. Contactées, les autorités françaises expliquent qu'à leur connaissance, les armes françaises ne sont pas utilisées sur la ligne de front et ne font pas de victimes civiles.
Benoît Colomba, merci. La guerre au Yémen a fait au moins 10 000 morts. Voilà donc pour votre enquête menée avec Disclose, dont la cellule d'investigation de Radio France est partenaire. Vous trouverez cette enquête ainsi que la carte dont vous avez parlé en détail. Le tout sur franceinter.fr.
Il est 8h04, Florence, et cette fois, c'est le jour J.
À 20h ce soir, Emmanuel Macron tentera de transformer la colère en solution, comme il l'avait annoncé dans sa lettre aux Français en janvier. Colère des Gilets jaunes, soutenue par une majorité du pays à ce moment-là. C'était le lancement du grand débat. 3 mois plus tard, nous y voilà. Yaël Gauz, bonjour.
Bonjour, bonjour Florence.
Le président passe au concret, au terme d'une interminable bande-annonce.
Oh oui, question teasing. Je crois que seul Game of Thrones, ça fait plus fort que l'Elysée. 19h41 hier soir, Emmanuel Macron tweet sa bande-annonce. Bientôt, enfin, la saison 2 du quinquennat.
Je pense qu'on peut lever par ce débat beaucoup de malentendus.
Je suis médecin et pourtant vous voyez un gilet jaune à mes pieds.
Moi je prends un engagement solennel devant vous, c'est que moi j'en tirerai des conséquences véritables.
Je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité, de réussir.
Et au bout de cette petite musique anxiogène, le rendez-vous s'affiche lundi 15 avril à 20h. Je vous réponds, le jeu gaullien. En matière de crescendo, difficile d'aller plus haut. Chacun est monté d'une gamme depuis la semaine dernière. Édouard Philippe, il y aura des décisions puissantes et concrètes. Si Beth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, plus rien ne sera comme avant. Les conseillers conseiller du président parlait hier soir d'une lame de fond en deux temps, en deux vagues. L'allocution classique face caméra à 20h ce soir, enregistrée 10 à 20 minutes. Puis la conférence de presse de mercredi pour préciser, compléter un exercice inédit pour Emmanuel Macron.
Alors suspense et grand secret autour de l'intervention du président Yael. Pour autant, quelques pistes reviennent avec insistance.
Il y aura deux niveaux de réponse. Hein. L'hyper concret à effet immédiat et les chantiers de long terme. Le 10 décembre, nous disent ses conseillers, n'était qu'une réponse conjoncturelle. Ce soir, ce sera structurel, comme s'il fallait déjà préparer les esprits, anticiper les frustrations. Le changement, c'est maintenant, mais ça prend du temps. D'un mot, les pistes, réindexation des petites retraites, l'aide aux mères isolées pour les impayés de pension alimentaire, une entrée plus progressive dans l'impôt sur le revenu, plus de fonctionnaires sur le terrain, et puis le volet institutionnel, proportionnel, loi d'initiative citoyenne, refonte du CESE, un président exposé comme jamais, vertical après l'horizontale du grand débat, acquis tout double, le 26 mai, il n'y a qu'un tour, sanction ou approbation dans les urnes.
Yael Gauss, chef du service politique de France Inter, merci. Moins d'impôts et plus de services publics, c'est l'une des équations à résoudre. Et s'il est un endroit où le service se dégrade, c'est l'hôpital, et plus précisément les urgences des hôpitaux. Depuis minuit, les infirmiers et les aides-soignants de 4 hôpitaux parisiens sont en grève illimitée. Ils ont le sentiment de ne plus pouvoir remplir leur mission correctement. Alors ils ne vont pas débrayer, ça n'est pas possible. Mais leur colère se lira sur leur blouse, Jérôme Jadot.
Sur ma blouse, il y a marqué « Personnel soignant en souffrance ».
Nicolas, aide-soignant, est en grève depuis près d'un mois.
Soignant, mais pas Puchimbol.
Assigné la plupart du temps pour garantir le service.
J'ai un petit badge qui dit « Je suis en grève, mais je soigne ».
Passionné par son métier, il le trouve de moins en moins supportable, avec une fréquentation des urgences en hausse de 3% par an et des effectifs qui ne suivent pas.
On en arrive à faire du soin rapide et à enchaîner les gens, les uns après les autres. Donc c'est plus vraiment du soin. C'est pesant, on a l'impression de mal faire notre travail quand on rentre le soir en fait. On s'est dit « bah j'ai mal soigné les gens, faute de temps, faute d'effectifs, faute de moyens ».
Engorgement, temps d'attente accru, cela favorise aussi les tensions. 9 agressions de personnel depuis le début de l'année aux urgences de Saint-Antoine. Candice Lafarge est aide-soignante, syndiquée Sud Santé.
Un patient s'est jeté sur une de mes collègues, lui a donné un coup de pied, a arraché les cheveux d'une autre. J'ai une autre de mes collègues qui s'est pris un coup de poing dans la face avec une déviation de la mâchoire et un œil au beurre noir. On s'est habitué aux crachats, aux insultes, mais on n'était pas préparé à ce que notre intégrité soit touchée.
Les grévistes réclament une meilleure sécurisation de leurs locaux, plus d'embauches que les 45 promises la semaine dernière par la direction de l'APHP pour tous ces hôpitaux. Et aussi une reconnaissance salariale de la spécificité de leur métier.
Jérôme Jadot, nom de code Hercule. Grosse manœuvre en vue chez EDF. L'État s'apprête à scinder l'entreprise en deux pour récupérer la partie nucléaire. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Selon le Parisien, un calendrier d'annonce a été fixé d'ici l'été, alors que le gouvernement veut donc privatiser ADP, là c'est le contraire. Il s'agirait de renationaliser les centrales nucléaires.
En tout cas de réorganiser l'ensemble, puisque le groupe EDF est certes devenu un groupe privé, mais l'État en reste le premier actionnaire. Il s'agit en fait d'isoler au sein d'une structure contrôlée par l'État l'activité qui est à la fois la plus stratégique et la plus endettée, celle qui demande le plus d'investissement, le nucléaire. Il s'agit là d'une réorganisation qui est dans les cartons depuis plusieurs années, mais le calendrier semble en effet s'accélérer. Les premières annonces pourraient intervenir en juin.
Alors, diviser EDF en deux parties et nationaliser la première, ça veut dire, Fabien, que l'État va pouvoir vendre la seconde.
Oui, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'activité nucléaire fait figure d'épouvantail sur les marchés financiers. Auprès des investisseurs, chère, risquée, elle pèse sur le cours de bourse. La seconde partie, qui comprend tous les autres métiers d'EDF, serait forcément plus facile à vendre dans l'hypothèse d'une cession de ses actifs dans les prochaines années. Un scénario que redoutent les syndicats. Vincent Rodet, coordinateur CFDT pour l'ensemble du groupe EDF.
Nous nous sommes très attachés au modèle dit intégré du groupe EDF. Pour le moment, EDF est acteur de la production, de la commercialisation, du transport de l'électricité à travers RTE, de sa distribution à travers Enedis. Donc on est très attaché à ce que les salariés puissent avoir des carrières variées, attractives. Donc ça veut dire en groupe intégré, ça ne veut pas dire en groupe explosé. Donc ça, c'est une ligne rouge. Hein. On n'acceptera pas que le groupe soit démantelé dans un grand mécano financier.
Les syndicats d'EDF guetteront les annonces d'Emmanuel Macron ce soir en espérant qu'aucune décision ne sera prise à la va-vite, explique-t-il dans la foulée du grand débat.
Fabien Cazot, merci pour le service économique et social de France Inter. 700 salariés sur le carreau dans la Sarthe, les Arzeaux, Wiggins vont recevoir leur lettre de licenciement cette semaine. L'entreprise de papier a été liquidée, mais les avocats des salariés dénoncent ce matin des mouvements de fonds suspects de leurs propriétaires, un pillage qui aurait, selon eux, entravé la poursuite de l'activité.
Il est 8h10, Florence. C'est l'histoire d'une vieille dame qui fermait ses volets à Marseille le 1er décembre dernier.
C'était jour de manifestation des Gilets jaunes. Zineb Redouane était donc à sa fenêtre au 4e étage quand elle a reçu une grenade lacrymogène dans le visage. Elle est morte à l'hôpital quelques heures plus tard. Un arrêt cardiaque sur la table d'opération, avait dit le procureur de la République de Marseille. Mais à la lecture du rapport d'autopsie, la famille de l'octogénaire a décidé de porter plainte, comme l'explique son avocat maître Yacine Bouzrou.
Il se trouve que les éléments en notre possession, et notamment le rapport d'autopsie, démontrent clairement qu'il y a un lien direct entre la grenade reçue au visage par Madame Redouane et son décès, contrairement aux allégations médiatiques du procureur de la République de Marseille, qui a indiqué qu'il n'y avait pas de lien. Je constate que dans cette affaire, il y a eu des éléments communiqués à la presse qui étaient faux. Et nous ne comprenons pas pourquoi la personne qui a tiré cette grenade n'a toujours pas été identifiée dans une affaire aussi grave. Et je rappelle que Madame Redouane, avant son décès, a pu se confier auprès de ses proches. Et elle a indiqué avoir vu un membre des forces de l'ordre la regarder, la viser et tirer. Alors bien entendu, nous imaginons bien que le décès n'était pas souhaité, et c'est la raison pour laquelle nous visons l'infraction de violence volontaire et entraîner à la mort sans intention de la donner.
L'avocat Yacine Bouzrou avec Emmanuel Leclerc. Trop de noyades en France. La ministre des Sports, ancienne nageuse de son état, veut mettre les petits Français à la natation dès leur plus jeune âge. Roxana Maracineanu annonce des expérimentations en maternelle avec des stages d'une semaine à la piscine et pourquoi pas des classes piscines comme il existe des classes de neige. 332 noyades accidentelles ont été recensées l'an dernier chez les enfants de moins de 6 ans. Et hier soir, c'est le PSG qui s'est noyé à Lille, défaite 5-1, alors qu'un nul aurait suffi pour être sacré champion de la saison de Ligue 1. Ça faisait 19 ans que le PSG n'avait pas pris 5 buts. Là, c'est l'histoire d'une résurrection. Nicolas, l'américain Tiger Woods, qui a remporté à 43 ans le Master d'Augusta, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, 11 ans après son dernier titre majeur et 14 ans avant son précédent succès au même endroit, celui qu'on croyait perdu pour le golf il y a encore 2 ans, et donc retourné au top niveau. L'Américain a été célébré hier à Augusta, où il a enfilé sa 5e veste verte qui récompense chaque année le vainqueur du tournoi. The return
to glory. Il a levé ses bras rageurs vers le ciel, poings serrés, en exultant après son dernier pote, tout en recevant cette ovation à la hauteur de son incroyable retour. Il s'est ensuite dirigé devant cette foule en délire vers sa famille, son fils, sa fille.
J'avais mes enfants ici avec moi, ça boucle la boucle. Mon père était là en 97, aujourd'hui c'est moi le père de 2 enfants. J'ai passé 2 ans sans jouer ce tournoi et c'est moi le champion. Il s'est passé 22 ans depuis ma première victoire ici. C'est juste une expérience incroyable. Je ne pourrais pas être plus content ou comblé.
Tiger Woods a enfin laissé derrière lui ses heures les plus sombres. Son arrestation il y a bientôt 2 ans sous l'emprise de médicaments après sa 4e opération au dos, totalement hagard dans les phares d'une voiture de police. L'épisode de sa cure de désintoxication pour addiction sexuelle au début de sa descente aux enfers, suite à son divorce retentissant et ses excuses publiques. Tombé au-delà de la 1000e place mondiale au moment de la fusion de 2 de ses vertèbres, le tigre s'est soigné psychologiquement et reconstruit physiquement. Il a aussi réussi à mettre d'accord hier Barack Obama et Donald Trump, qui l'ont tous deux félicité, mesurant la portée de cette victoire. Fantastic. Congratulations, Tiger.
Unbelievable. Barack Obama, Donald Trump et l'immense joueuse de tennis Serena Williams, 23 grands chelems à son actif, qui a déclaré être littéralement en larmes devant Tiger Woods. C'est une grandeur sans pareil. On remercie Fabrice Rigobert qui nous a fabriqué ce sujet sur le golfeur.
3h du matin, la vie et la nuit se sont arrêtés, Florence, pour les fans de Game of Thrones.
Et oui, premiers épisodes de l'ultime saison de la série aux milliards de téléspectateurs dans le monde. France Inter aussi y a passé la nuit, comme Loïc Piala à Los Angeles, qui a quand même veillé moins tard, parce que pour lui c'était la bonne heure, évidemment.
Les scènes de dragons ne manquent pas dans cet épisode qui fait écho au tout premier de la série. La chaîne HBO aurait certes dépensé 90 millions de dollars pour l'ultime saison, mais cet épisode n'était sans doute pas le plus cher.
I'm not king in the north anymore. I'm not talking about the king in the north, I'm talking about the king of the bloody seven kingdoms.
Pas de bataille épique malgré quelques morts ajoutées aux 2339 comptabilisées par le Washington Post depuis le début de la saga. Pendant 54 minutes, l'épisode joue plutôt sur la tension entre les personnages, y compris les membres de la famille Stark, à l'exception peut-être d'une séquence à l'eau de rose entre Jon Snow et Daenerys, inhabituelle dans l'univers de Game of Thrones.
Go on.
I don't know how to ride a dragon.
Nobody does until they ride a dragon.
Beaucoup de personnages séparés depuis très longtemps se retrouvent enfin, posant les enjeux à venir. Les créateurs se sont d'ailleurs offert un plan final glaçant. Et quand apparaît le générique, une triste réalité s'impose aux spectateurs. Dans 5 semaines, tout sera déjà terminé. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Voilà, et on verra si Summer is coming enfin dans un instant.
Merci.
Parce que nous, c'est ça qu'on attend.
Voilà, hein. Merci Florence Paracuelos.